Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous. Pour cette transition 2016-2017, nous vous proposons de revivre des moments loufoques et certaines histoires de nos invités. Nous parlons aussi aujourd'hui des apparences physiques. Nos vies ont changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Vous avez peut-être communiqué vous-même ces derniers jours sur votre réveillon de Noël, vos cadeaux ou encore vos tenues vestimentaires. Les apparences physiques sont au cœur de l'un de nos invités. Jean-François Amadieu est avec nous. En plateau avec lui, le dessinateur le plus féroce du moment. Il s'est justement fait connaître sur les réseaux sociaux. Salch dresse des portraits osés des hommes et femmes de notre société. Son lookbook paru chez Fluide Glacial divise nos libraires. Évidemment, car c'est osé et même souvent vulgaire. Et puis, vous allez vivre ou revivre avec nous des moments incontrôlés avec nos invités, des anecdotes personnelles et des confidences qui vont forcément attiser votre curiosité.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avec nous, bien sûr, comme d'habitude, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Laura Sanchez est en Suisse, libraire à Genève, dans la librairie du Boulevard. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Le Père Noël est passé chez vous cette année ?
Ouais, il a été super.
En France, on n'a pas de Père Noël à Auxerre, mais le Père Fouettard, incarné par notre libraire Grégoire Courtois. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous dirigez la sublime librairie Oblique à Auxerre. Et je dis ça parce que vous n'êtes pas toujours très commode, mais vous êtes un libraire sympa quand même. Tout va bien, Grégoire ?
Je suis gentil avec les enfants.
Oui, j'espère.
Les adultes, un peu moins.
Au moins ça. Bonjour, Jérémy Lagniel.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes au Canada, dans la librairie Carcajou à Rosemère, la concurrence entre les deux. Ça va, Jérémy ?
Oui, ça va très bien.
Bien. En Belgique, c'est Sophie Creuse qui est à Waterloo. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Graffiti. Voilà pour nos chroniqueurs libraires. On commence tout de suite avec un premier florilège d'anecdotes. Retour sur le festival Le Livre sur les Quais à Morges en Suisse avec Dany Laferrière et avec une histoire étonnante, vous allez l'entendre, de Marie Desplechin. Autre chroniqueur de prestige qui nous rejoint, invité récurrent, chroniqueur de luxe, immortel de la librairie francophone. Bonjour Dany Laferrière.
Mais bonjour Emmanuel, mais c'est pas ce qu'on me dit. Les gens me disent, mais tu invites souvent Emmanuel Kérad dans ton émission.
Parce que je prépare la relève. C'est ça. Bon, merci d'être fidèle à cette émission, Dany, et d'être fidèle à tout ce que nous portons. Avez-vous une histoire personnelle liée à la Suisse, pour commencer, tiens?
Ah, mais c'est-à-dire liée au temps, au moment, à l'instant présent. Et la Suisse donne l'heure juste. J'étais tout à l'heure à côté, à l'hôtel Mont-Blanc, et je m'apprêtais, on m'avait réservé une chambre, tout simplement, pour me reposer, parce que j'ai vraiment une liste. Ouais. Et généralement, je me déshabille. Pour une sieste, une vraie sieste.
Ouais, ouais.
Il faut être nu.
Exactement.
Oui, il faut être nu.
À nu
et
complètement.
Oui. Simplement en chaussettes, vous enlevez 10% de votre possibilité de vous reposer.
Pantalon
et chaussettes, 20%, chemisette, 30%, vous voyez.
Et caleçon,
alors j'étais
et caleçon,
nu et j'allais me plonger. Et ça crée une autre ambiance que d'être, même si on est tout près, que d'être dans une chambre avec la pénombre, les draps blancs, le bruit de la mer,
ouais,
les oies,
lac,
les scies
hein.
Et tout. Et puis brusquement, le téléphone sonne. On m'a dit, c'est Emmanuel qui vous attend. J'ai dit, mais qu'il monte. Eh bien non, on m'a dit, non, il y a toute une pléiade, ton vieil ami Yasmina Kadra est là,
oui, c'est ça, oui.
Véronique est là, quelle partouze.
Vous êtes en super forme, c'est génial la rentrée avec vous, Dany Laferrière. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Vous avez carte blanche aujourd'hui, Marie, que voulez-vous transmettre?
Alors, je vais vous parler de deux livres que j'adorais quand j'étais gamine, quand j'avais une douzaine d'années, qui s'appelaient Chevrette et Virginie et l'Amazone bleue en bibliothèque verte. Et le nom de l'auteur faisait rêver, c'est Françoise Daubonne. Mais elle n'en avait pas écrit d'autres pour les enfants. Devenue adulte, je me suis rendu compte que c'était une très grande théoricienne féministe qui s'était installée aux États-Unis avec une vision très radicale des choses. Et j'étais stupéfaite par ces deux visages et par ce que ça avait laissé dans mon enfance. Des années, j'ai bien passé 40, j'arrive à 50, je vais dans un café avec un copain pendant une heure un matin, voilà, dans le centre de Paris, et on discute, à bâtons rompus et notamment de féminisme. Et il y avait une dame avec des cheveux toute poudrée, habillée de couleurs vives, de rose tyrien, dans un coin de ce café avec plein de papiers. Je quitte ce copain, je vais vers la porte, cette dame m'arrête et me dit « Madame, je vous ai écouté parler, je pense que ceci pourrait vous intéresser. » Et elle me donne une invitation à un récital de poétesse persane. Mmh. Et je vois dans la liste des invités Françoise Daubonne. Et je lui dis oh, « Mais madame, j'aurais adoré pouvoir venir parce que Françoise Daubonne, vous pouvez pas savoir ce qu'elle représente pour moi. » Et elle me dit « Mais madame, Françoise Daubonne, c'est moi !» Et je dis « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Elle me dit « Mais faites !» Et voilà comment j'ai embrassé chaleureusement sur ses deux joues poudrées Françoise Daubonne à qui je devais tant.
On poursuit avec de l'humour toujours. En septembre, nous recevions Lewis Trondheim avec son épouse Brigitte Findakli qui raconte son enfance en Irak dans une bande dessinée très réussie. Vous allez entendre aussi Alain Chamfort en octobre avec des moments complètement loufoques et Leïla Slimani, prix Goncourt 2016. Petit cadeau, Brigitte. Adolescente, vous écoutiez Michel Sardou avant de vous rendre compte de votre erreur et de passer à Georges Moustaki.
Bah, je vous remercie.
Georges Moustaki, qui était le parrain de la librairie francophone.
Ah, d'accord.
De métèques, de juifs errants, de pâtres grecs et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Chantier Moustaki
avec
comme ça.
Oui,
dans votre chambre.
Ah oui, j'ai passé des heures et des heures. Mais je l'ai rencontré un jour,
Moustaki.
Oui, il y a quelques années, parce qu'il avait fait une préface d'un des albums du Chat du Rabbin.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, j'ai un peu honte, mais j'étais tellement intimidée que j'étais nulle avec lui, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais très mal à l'aise, mais contente de l'avoir rencontré.
Et puis, tu t'es mariée avec moi, tu ne pouvais rien faire, de toute façon.
Bon, on pense à lui, voilà, vous êtes dans l'émission qu'il a parrainé.
Merci de...
Ça a été le premier invité, on a même fait des pilotes avec lui avant de lancer l'émission il y a quelques années, on ne dit plus parce qu'on dit oui. Merci beaucoup Brigitte Findakli, merci Lewis Trondheim d'être venu dans les médias. C'est rare chez nous. Ça va, on a été gentils à peu près.
Oui, même le monsieur gentil de la librairie d'Auxerre, il était
monsieur
gentil.
Monsieur méchant.
Oui. Non, gentil. Maintenant, c'est le monsieur gentil, il faut arrêter avec le monsieur méchant.
Et Lewis Trondheim a basculé. Maintenant, il adore les médias. Dans cette plus grande librairie du monde, on s'intéresse aux livres de poésie.
Non, d'abord, je vous fais un bisou.
Et ça y est, c'est les Teletubbies, hein, Lewis. On va rester dans l'intimité, Alain Chamfort est dans la librairie francophone pour son livre « Intime, anti-biographie musicale » paru au Cherche Midi. Laura Sanchez est en Suisse. Que voulez-vous dire à Alain Chamfort, Laura ?
Eh bien moi, ça m'a vraiment amusé de croiser tous ces grands noms de la chanson et de la scène française. Mais il y a une chose, moi, qui m'a gênée dans l'écriture, c'est-à-dire dans l'intention. C'est-à-dire que le récit est franc, mais en même temps, vous vous justifiez ou vous vous excusez de le faire. Et pour moi, c'était un peu dérangeant.
Mais il fallait charger comme ça sans s'excuser.
Ouais, exactement.
C'est une façon de voir, oui, Laura. Jérémy Laniel au Canada.
Oui, ben, ne le prenez pas mal, Monsieur Chamfort, hein, mais j'avais aucune idée qui vous étiez avant de me plonger dans votre antibiographie. L'âge oblige.
Non, l'âge oblige quand même.
Ben c'est vrai, je suis allé très peu souvent au Québec, je regrette d'ailleurs, parce que j'aimais bien. Mais la dernière fois que j'ai dû y passer, ça devait être en 1976. Donc,
oui, il n'était pas né, Jérémy.
Voilà.
J'étais pas né, malheureusement. N'en demeure pas moins que le projet qu'on ouvre en départ, cette anti-biographie musicale, est assez sympathique. Je la conseille à quiconque vous aime bien. C'est un parcours, somme toute, intéressant. C'est vraiment efficace sur l'histoire personnelle.
Voilà, ben écoutez, maintenant il faut écouter les disques d'Alain Chamfort. Hein,
voilà, c'est cette semaine, je fais ça là.
C'est du grand n'importe quoi, Alain Chamfort, à l'époque. Hein. Vous avez failli adopter un bébé guépard avec Jacques Dutronc. Dutronc qui, lui, va adopter le guépard.
Bah lui, il souhaitait que je... C'est-à-dire qu'on était ensemble à ces factoristes, un magasin parisien qui n'existe plus aujourd'hui. Et arrivé dans ce bar, il me propose de partir avec un guépard. J'ai dit, mais enfin, tu penses pas, je vais pas rentrer chez moi, chez mes parents. En plus, j'habitais encore chez eux à l'époque. Mais c'était parce qu'il voulait justifier le fait d'en acheter un pour lui.
Et il en achète un, non ?
Et il en a acheté deux, non ? Parce qu'on était trois. Bon, là, on était avec un ami photographe qu'il a réussi à convaincre d'accepter de repartir avec un guépard.
Donc le guépard est dans la maison de Dutronc.
Donc le guépard
il s'appelle
pendant
Sumo.
6 mois.
Ouais, il avait, dans 6 mois.
Et pendant les 6 mois qu'on allait chez Jacques, chaque semaine qui passait, le guépard, il grandissait de 10 ou 10 centimètres. C'est-à-dire qu'après, on entrait dans la maison, il se jetait sur nous comme un petit chat, si vous voulez, sauf
oui,
que
jouer
avec les dimensions que ça fait, ses griffes. Enfin, il nous laminait les pantalons, il nous enroulait de salive. Enfin, c'était juste une horreur, quoi.
Et Dutronc l'enfermait dans la salle de bain avec des lapins vivants pour qu'il chasse.
Oui, parce qu'il fallait conserver son instinct de chasseur. Donc, il jetait une poule ou un lapin et il fermait la porte.
C'était complètement fou. Complètement fou. Le succès arrive assez vite hein, pour Voilà Chanfort. Il y a ce titre qui va vous faire connaître, c'est Manu Reva, une collaboration avec Gainsbourg, avec qui vous faites le difficile. Hein. Vous dites ces textes ne vous conviennent pas. Le titre, Adieu California non plus, ça ne marche pas. Quoi. Ouais, jusqu'au jour où il vous fredonne Manu Reva au téléphone.
Oui, et il y a eu comme... Enfin, j'ai ressenti une satisfaction, quoi. C'est-à-dire que, si vous voyez, les textes doivent effectivement ne pas desservir les musiques. Hein. Mm-hmm. C'est quand même la moindre des choses. Donc, et Adieu California n'avait pas ce rôle-là.
Et il vous appelle, et juste au téléphone, vous décrochez, c'est Gainsbourg, et il dit oui. « Manu Reva ».
Voilà, et c'était gagné. Oui.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
On commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, anecdote personnelle, étonnante. Que voulez-vous transmettre, Leïla?
Donc mon roman qui s'appelle Chanson douce, c'était un roman à propos d'une nounou. Et depuis qu'il est publié, je reçois beaucoup d'histoires de femmes qui ont des nounous. Et notamment cette histoire d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait embauché une nounou philippine qui a vécu chez elle pendant très longtemps. Et qu'un soir, la DGSI est arrivée chez elle, a demandé à la dame de les suivre au ministère de l'Intérieur. Ils ont amené la dame. Et en fait, sa nounou était une djihadiste. Oh. Ils lui ont montré des photos de la nounou qui avait un AK-47, un bandeau sur le... Ouais. Et évidemment, la femme a eu la frayeur de sa vie. Ils n'ont jamais retrouvé la trace de sa nounou. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça sur des nounous assez étonnantes. Une autre qui s'est mariée avec le mari, qui a quitté sa femme pour la nounou.
Ça arrive.
Méfiez-vous. De ceux avec qui vous vivez, quel qu'il soit.
C'est un carnage absolu, parce qu'entre votre livre et votre histoire, le marché de la nounou va s'effondrer.
Là, c'est les gens qui me racontent ça, qu'est-ce que vous voulez que je
dise ? C'est terrible, Leïla.
Bah ouais,
vous vous rendez compte de la responsabilité ou pas ?
Oh non, mais arrêtez, vous allez me faire stresser.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vont cette semaine vous parler des sorties en librairie qui ont marqué 2016 avant de plonger évidemment pleinement dans cette année 2017. On commence en douceur avec, contre toute attente, un coup de cœur de Jérémy Laniel au Canada. Jérémy.
Oui, ils se font rares, Emmanuel, ces coups de cœur, mais là, c'en est un vrai.
Allez-y.
Je vous parle du Droit d'être rebelle. C'est un livre de correspondance de Marcel Ferron avec ses frères et sœurs, donc Madeleine Ferron, Jacques Ferron, Thérèse et Paul Ferron. Une famille qui a vraiment marqué le Québec. C'est une correspondance qui va s'échelonner de 44 à 85. Et au détour de ces 500 lettres, bien la fille de Marcel Ferron qui a regroupé ces lettres-là en fait un réel roman épistolaire qui se déplie devant nous. C'est une famille qui a jamais eu peur de penser le Québec, d'argumenter entre eux. Ici, médecins, romanciers, nouvellistes, conteurs, peintres, journalistes, tout le monde s'entremêle entre Montréal et Laurentides de la France pour nous donner, selon moi, l'une des plus importantes correspondances québécoises.
Très bien. Le droit d'être rebelle. Donc, l'auteur, c'est Babalou Hamelin et c'est la fille de Marcel Ferron, d'ailleurs, je crois.
Hein. Exactement, oui.
Voilà. Merci, Jérémy. Grégoire Courtois pour la France. Coup de gueule ou coup de cœur?
Ah, coup de gueule. Écoutez... Ouais, c'est un coup de gueule qui dure depuis 2 ans, donc là j'en profite aujourd'hui parce qu'on a notre dernière mouture du Charlotte de Davin Funkinhaus. Alors, je ne parle pas du tout de la qualité du livre, ça n'est pas le problème, mais le livre est sorti il y a 2 ans et demi en grand format. Ensuite, il est sorti en poche, ensuite il est sorti en version illustrée, ensuite en version audio, ensuite en version gros caractère. Et là, nous avons aujourd'hui la version illustrée en poche. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire stop. Voilà, stop.
Oh ouais, alors David Funkinhaus, quand même, c'est un grand fidèle de la librairie francophone. On a contribué à le révéler. Il adore cette émission. Alors, je suis obligé de me désolidariser un peu lâchement de votre chronique.
J'en étais sûr, Emmanuel. Emmanuel.
C'est pas du tout impartial. Non, mais c'est voilà, les éditeurs font de l'argent avec ça. Voilà, ouais, c'est tout, ça marche
six,
bien.
Six éditions, là, quand même. C'est la sixième.
C'est beaucoup. Bon, allez, on salue David quand même. Très bien. Puisque l'on parle des coups de cœur et des coups de gueule, eh bien, notre réalisatrice, Céline Hila, a pioché une autre petite pépite chez Dany Laferrière. Écoutez.
Un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur et un coup de gueule. Mais c'est universel. Le coup de cœur, c'est pour l'Odyssée. Magnifique roman extraordinaire. Heureusement que c'est venu après, parce que sinon on aurait banni l'auteur qui avait fait vraiment un mauvais livre. D'abord l'Iliade, qui est une sorte de je ne sais pas quoi, c'est un bottin téléphonique de l'Antiquité. On trouve tous les noms des types qui ont fait quoi que ce soit dans l'Antiquité. Et il n'y a pas d'histoire, c'est mal écrit. Alors que l'Odyssée, c'est une merveille. Ulysse revient, il traverse les mers, il rencontre...
Mais quel est le rapport avec la jarre, Dany?
Non, c'est avec coup de cœur et coup de gueule.
Mais ça va m'emmener pas là au coup de cœur.
Mais c'est dans la même émission.
Mais d'accord, mais c'est juste
si ça
après,
continue, hein. Je vais te faire renvoyer.
Mais non, mais ouais, mais d'accord, mais vous suivez pas le conducteur.
Il y a des gens qui ont protesté par rapport à ta façon d'animer.
À suivre, un débat sur le look et la société du paraître avec le dessinateur Salch et le sociologue Jean-François Amadieu. Avant cela, voici Gaël Faye qui était venu parler de son livre et chanter dans nos studios le titre qui illustre son roman Petit Pays.
Gahubu gatoi, gahubu kaniniya, orafunwa ni wapuye, waragowe ni wagoka, gahubu gatoi, gahubu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence, avait bien commencé, j'aimerais recommencer, depuis le début mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaougou gatoi, gaougou kaniniya. Wanafunwa ni wafuye, wanagowe ni wagoka, gahugu gatoi, gahugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gahougou gatoi, gahougou kaniniya. Wanafunwa ni wapuye, wanagowe ni wagoka.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man, j'ai plus de sommeil. Et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au dû.
Gahougou gatoi, gahougou kaniniya. Wanafunwa ni wapuye, wanagowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Gahougou gatoi, gahougou kaniniya.
Petit pays,
wanafunwa ni wapuye, wanagowe ni wagoka. Gahougou gatoi, gahougou kaniniya.
Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Une
une version acoustique inédite de Petit Pays, Gaël Faye, qui connaît un grand succès avec son roman au titre éponyme, lauréat entre autres du prix Goncourt des lycéens.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Vous écoutez la librairie francophone sur les ondes de France Inter, de RTS la première, RTBF la première, RTBF international, ici Radio-Canada première et sur la radio publique haïtienne. Bonjour Jean-François Amadieu.
Bonjour.
Vous avez publié La société du paraître aux éditions Odile Jacob. Le premier jugement que l'on porte sur l'autre, c'est son apparence physique, c'est son style vestimentaire aussi?
Oui, c'est sûr. C'est pas vraiment un scoop, hein. Je crois que tout le monde s'en doute un petit peu. Non, c'est simplement que on se rend pas compte jusqu'à quel point c'est le cas. Et puis les effets que ça a concrètement dans la vie de tout le monde.
Oui, beaucoup d'effets que l'on va détailler ensemble. Il y a à côté de vous le dessinateur le plus féroce de la planète BD. Il est l'auteur de la BD la plus agressive de 2016. Bonjour Salch.
Bonjour.
Lookbook est paru chez Fluide Glacial. Vous faites les portraits des personnages, on va dire, de notre société, de notre époque. Vous avez auparavant travaillé dans le monde de la mode. Oui. Et donc le look est un sujet que vous maîtrisez parfaitement, mais qui vous énerve, qui vous rend presque agressif, hein, vulgaire, carrément.
Oui, un petit peu.
Beaucoup même. Beaucoup. Ouais. Pourquoi la vulgarité, ça défoule, ça évite la haine?
Je sais pas, ça est sorti comme ça, je peux pas vraiment expliquer. L'insulte, il y a un côté marrant, ouais, dans le côté défouloir. C'est venu d'un moment d'ennui, en fait, parce que la création, généralement, ça vient souvent de l'ennui. Mmh. Et donc, c'est venu en dessinant un hipster, oui. C'est-à-dire les mecs qui portaient des barbes à l'époque. On en voit moins aujourd'hui, mais vers 2015, c'était la grosse mode. Et j'en ai dessiné un, et j'ai mis des petites flèches avec marqué « barbe de merde, roulette fils de pute
». Ouais, bon, c'est complètement
gratuit. Et je l'ai posté sur Internet et ça a cartonné, quoi.
Alors, vous dessinez le beauf, le chauffeur de taxi, le chasseur, le cadre supérieur looké, le fumeur de cigarettes électroniques qui, je cite, « tête comme un gros bébé ». Je suis raisonnable, hein, parce qu'il y a d'autres choses. L'éditeur de BD pété de caillasse, ou encore le jeune avec ses ourlets de pantalon de fils de...
De pute.
Oui, enfin...
Je le dis à votre place. Hein.
Ouais, je vous remercie. Qu'est-ce que c'est un ourlet de fils de...
Bah, disons qu'à un moment donné, il y avait vraiment cette mode... Moi, il y a un truc qui m'agace, c'est quand je vois la cheville, on met une paire de baskets, on voit la peau...
La
cheville nue.
Bah, c'est sexy, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est ce côté un peu sexy qui peut m'agacer, quoi.
C'est cool. Vous mettez jamais de basket avec une chaussette invisible?
Non, avec des ourlets, non, je peux pas faire ça. Non.
Mais maintenant, vous pouvez plus, en fait. Vous avez inventé le concept, finalement, de l'ourlet.
Voilà.
Du coup.
Voilà, c'est moi.
Vous en rajoutez une couche.
C'est moi, voilà.
Ouais. Bon, allez, on va aller voir du côté de Sophie Creuse, qui est en Belgique. Elle a lu le lookbook Salch.
Oui.
Et elle veut réagir.
Ah, j'ai l'habitude.
Ah oui, je l'ai lu.
Allez-y.
Bah, écoutez, pour moi, c'est vraiment l'album que la francophonie attendait. Hein, cette richesse lexicale, cette inventivité du verbe, la variété des propositions, entre trou de cul et bite, vraiment, on ne sait plus où donner de la tête. Bah, voilà, écoutez, cette sociologie de vestiaire, ça pourrait être drôle si c'était pas à ce point minimaliste, ordurier, sans imagination ni tendresse, surtout pour les pauvres cons que nous sommes. Dans le même registre, réserve, Bretéché, ou même Villemain, bah, ils avaient eux du génie, hein, le génie de l'outrance.
Oh. Ouais, vous avez détesté en fait.
J'ai pas vraiment aimé, non.
Bon, écoutez, nous ça nous fait beaucoup rire, hein. Vous êtes là, Salch, parce qu'on a osé, voilà, pour la transition 2016-2017, on a dit on va tout lâcher. Et face à vous, il y a Jean-François Amadieu. Alors Jean-François, c'est un principe obligatoire aujourd'hui de se donner des apparences, on le voit avec Salch. Aujourd'hui, on a tendance à se donner une apparence, notamment en raison des réseaux sociaux. C'est ce que vous expliquez très sérieusement dans votre essai.
Les gens, à la fois pour sortir, bien sûr, ils adoptent des looks, selon d'ailleurs les moments de la journée. Et puis chacun sait que sur les réseaux sociaux, ils travaillent leur physique, leur apparence, ils se mettent en scène. Et ils s'imaginent, c'est ça qui est drôle, c'est que pour leur look vestimentaire, comme pour les images qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, avec les selfies, etc., les gens pensent toujours qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes, libérés. Au fond, ils sont pas sujets à la mode, ils sont très libres, ils maîtrisent, ils contrôlent leurs images. En réalité, il y a comme... vos dessins le montrent, hein, Salch, il y a beaucoup de conformisme en fait. Ouais. Et donc, simplement, on adopte les normes d'un groupe, etc.
Salch, juste, on va décrire certains personnages, si on va essayer en tout cas. Il y a le look bébé, par exemple, qui, selon vous, gerbe comme un toxico, est un fils d'abruti, pue la merde. Et la femme enceinte aussi, je cite, hein, que les choses soient claires, a réussi à se faire engrosser par un abruti.
Oui. Oui, faut que je commente.
Là, ça nous tombe des mains un peu, oui. C'est comme vous voulez.
Bah, c'est un peu un rejet que j'ai de la paternité. J'ai divorcé, tu sais, j'ai eu des enfants.
Ah,
donc je me suis défoulé.
C'est du vécu.
Voilà, c'est du vécu.
Bien
ouais.
sûr, je parle beaucoup de moi à travers mes dessins. Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez en fait certaines attitudes, certaines apparences qui effectivement énervent tout le monde. Il y a par exemple ce type qui est en veste et pantalon, en été, avec un t-shirt un peu décolleté, et qui a au pied des sandales à scratch, vous savez, celles qu'on trouve dans les magasins de sport pour faire des randonnées.
Oui, oui, oui.
Et vous mettez une flèche et vous dites « Enfoiré, tu t'es cru où là ?»
Voilà.
C'est vrai qu'on se dit « Mais comment ce type peut mettre ça ?»
Ouais. Surtout que c'est issu d'une vraie photo, hein. C'est un vrai truc que j'ai vu et... Où justement, c'était décrit comme quelque chose de super cool, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, mais non, il n'y a rien de cool là-dedans. Là. C'est, ouais, voilà, tu t'es cru où, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors là, c'est justifié. Et puis le joueur de boule de 30-40 ans, là, c'est horriblement vulgaire. Je peux pas tout décrire.
Je me souviens plus de tout.
Mais voilà, ouais. Bah, je peux pas. Je suis désolé. À part qu'il a un t-shirt mou, un pantalon mou, des espadrilles de merde et aussi un ourlet de fils de...
Voilà, bah oui.
Bon, Jérémy Lagnel, comment sont vos ourlets, vous, Jérémy?
Bon, je vais parler du livre et je vais laisser mes ourlets tranquilles, ça ne vous dérange pas.
Je vous en prie.
Alors, ben, c'est un livre qui est cocasse, hein, qui est drôle, qui se prend pas du tout au sérieux. On rigole à quelques endroits. Il y a certains passages que j'ai trouvés assez brillants. Mais en somme, je trouve qu'on tombe rapidement dans une répétition, tant dans le propos que dans le trait. Puis ça affaiblit un peu le livre. J'ai l'impression que chaque illustration est pertinente lorsqu'elle n'est pas accompagnée des autres. Donc, c'est comme d'excellents dessins pour les réseaux sociaux qui sont tout autant, mais pas nécessairement un excellent livre.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein, ça, le chat.
Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, dans le bouquin, ça donne un panel, un panorama plus large, et la répétition justement à l'infini de ces gros mots qui choquaient la dame de tout à l'heure.
Oui.
Moi, je trouve que justement, il y a un côté... parce qu'on voit tout à travers le prisme du dessin de presse, mais ça pourrait être imaginé, imaginons, de l'art contemporain, et on rentre dans une salle où on se consultait. Enfin, moi, je le voyais un peu comme ça, comme cet effet ouais, de...
Une performance artistique.
Ouais, ouais. On peut aussi l'imaginer comme ça. Et là, tout le monde dirait « Oh, mais c'est génial
!» Bon, vous vous moquez aussi des blondes, des gros, des maigres. Et Jean-François Amadieu, dans votre essai, vous pointez justement ces discriminations. Alors, pour le coup, discrimination sérieuse. Discrimination physique permanente, notamment dans le milieu professionnel. Vous racontez que de plus en plus de femmes, mais aussi d'hommes, vont chez le chirurgien esthétique pour faire carrière ou même pour trouver un emploi.
Oui, heureusement que tout le monde n'est pas obligé de le faire, puisque déjà, quand on envoie sa photo sur un CV, malheureusement en France c'est comme ça, on peut déjà trafiquer un petit peu, essayer de l'améliorer, etc. Hélas, et les études démontrent que c'est simplement l'air d'avoir l'air vieux,
ouais,
c'est-à-dire
ça,
concrètement
c'est
avoir des rides. Ouais. Voilà, c'est si votre peau, si votre visage, si vous avez l'air vieux, indépendamment de votre âge à l'état civil, c'est un problème.
Alors
donc évidemment,
c'est plus facile.
Dans beaucoup de milieux professionnels, bah, les gens sont obligés de faire des efforts. Puis voilà, puis après il y a la prise de poids, donc c'est vrai que certains vont chercher pour garder leur boulot vont aussi chez le chirurgien esthétique pour ça.
Ou à la salle de sport aussi. Hein.
Oui.
Et ça dépend effectivement des catégories sociales, parce qu'il faut avoir les moyens de se payer un abonnement.
C'est moins traumatisant. Oui,
oui. Oui, ça,
mais il y a les économistes qui ont calculé que c'était rentable la salle de sport.
Ouais.
Oui, ça se calcule. Il y a des gens très sérieux qui font ça, qui calculent que finalement ce que vous gagnez en salaire en allant fréquenter votre salle de sport, ça vaut le coup.
Alors la discrimination, Jean-François Amadieu, elle est souvent fréquente dans notre quotidien, dans la société, au restaurant, notamment pendant les fêtes ou quand il y a un événement exceptionnel. Moi je l'ai appris parce que vraiment j'avais pas réalisé ça, mais on a tendance, vous dites, à mettre vers le fond les moins beaux, les moins sexy, les moins présentables.
Oui, dans les grandes villes, avec des ça se pratique. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça. Donc, on relève les clients, on met au fond de la salle ou près des toilettes les clients, ou alors on les refuse ceux qui sont pas assez beaux.
Incroyable.
Ouais,
ça.
Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que il y a quelques années, ça se pratiquait déjà et personne ne disait jamais rien.
Mmh.
Et l'élément nouveau, c'est que maintenant, bah, finalement, quand il y a une coupure de presse, quand c'est évoqué, les gens se disent c'est pas normal. C'est ça qui a changé, ça c'est plutôt ça.
Parce que vous vous rappelez que dans les années 70, aux États-Unis, il y avait une loi dite anti-lait qui avait pour objectif d'écarter de l'espace public des individus jugés choquants pour leur laideur.
Oui, c'est ça, exactement. C'est incroyable, des lois anti-lait. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressemble un peu. Parce que vous avez remarqué que c'est la question des SDF.
Ouais.
Donc effectivement, quand des gens sont en situation de pauvreté, sont dans l'espace public, dans la rue, sur les bancs, les trottoirs, etc., et qui veulent parfois aller au musée ou aller ailleurs, effectivement, souvent, on s'aperçoit qu'il y a un rejet qui provient de leur look, leur apparence là, vestimentaire. C'est des questions de ce type. Et donc, on n'est pas loin du même raisonnement, finalement.
Deux libraires ont lu votre essai, Jean-François Amadieu. Vous avez la Suisse ou la France. On commence par qui ?
Bah écoutez, la Suisse.
La Suisse, allons-y. Laura Sanchez.
Oui, moi j'ai d'abord trouvé ce livre un peu ardu à lire parce qu'il y a de nombreuses données statistiques. Mais bien vite, on comprend pourquoi vous nous restituez toutes ces données. Parce que c'est tellement fou d'apprendre qu'en 2016, on a plus de chances dans sa vie professionnelle si on est blonde et mince que rousse et ronde. D'apprendre encore que les concurrents de Barack Obama au cours des différentes élections ont foncé sa peau dans des vidéos. Enfin voilà, à travers vos différentes recherches, on est face à la consternante vacuité de notre société. C'était malade de son image.
Grégoire Courtois en France, qu'en pensez-vous ?
Effectivement, on est assez peu surpris à la lecture de ce livre parce que ça confirme avec des chiffres ce qu'on pressentait, évidemment, ce que vient de dire Laura et puis tout ce que vous venez d'évoquer. Moi, j'ai pensé plus particulièrement aux adolescentes à une période de leur vie qui n'est pas évidente et qui sont elles aussi matraquées d'images de prétendue beauté, comme c'est très bien expliqué. Mais par contre, en tant que commerçant et que libraire, j'ai été absolument ravi de découvrir que les clients, et ça c'est dans le livre, les clients ne s'intéressent pas du tout à l'apparence physique de la personne qui leur vend quelque chose, mais à son amabilité et à sa compétence. Donc voilà, les clients, nos clients sont formidables et je les remercie.
Le commerçant dans toute sa splendeur.
Exactement.
Chez les personnalités politiques, Jean-François Amadieu, les apparences physiques sont déterminantes. Et la jeunesse, c'est donc un critère aujourd'hui qui inciterait les jeunes à se mobiliser plus pour une élection. Il y aurait aujourd'hui une tendance à élire des hommes et femmes politiques plus jeunes qu'avant. Et Justin Trudeau, au Canada, en est un exemple parfait.
Oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a depuis longtemps une prime à ce qu'on appelle, puisque vous faites référence à Trudeau, au Trudeau, il y a la référence à ce qu'on appelle le leader de charme depuis longtemps. C'est-à-dire le leader politique qui va être jeune et plutôt beau. Et donc, c'est toujours efficace politiquement, c'est souvent utilisé dans pas mal de pays, en France aussi, et d'ailleurs, sans entrer dans le détail, on risque d'en avoir quelques exemples, on en a en ce moment des exemples en France.
Alors voilà, avec
voilà. Peut-être, je sais pas s'il faut être plus précis, mais très clairement, les candidats jeunes et plutôt qui peuvent utiliser cette arme-là. Alors, ce qui est par contre intéressant, c'est que bien qu'on le sache depuis au moins les campagnes Kennedy aux États-Unis, c'est donc tous les communicants qui travaillent avec les hommes politiques le savent, Mais par contre, dans les commentaires autorisés, les commentaires politiques après les élections, avant les élections, vous pouvez regarder, finalement, on en parle très peu.
Ouais.
Alors c'est assez fascinant, parce que comme si le résultat final ne devait rien à cette affaire-là, qui est le charme, la séduction, ou simplement la trombine, la tête de quelqu'un. Et pourtant, je peux vous assurer, alors c'est vrai que j'admets que c'est peut-être un peu ennuyeux, mais il faut bien le démontrer, il y a beaucoup de collègues américains, de chercheurs qui travaillent, même dans d'autres pays. En Suisse, il y en a aussi d'ailleurs, des chercheurs de Lausanne, qui ont montré que vraiment on déplace les électeurs avec tout ça. Ouais.
Et l'homme chétif aurait moins de chances de convaincre l'opinion. Pour les femmes, c'est encore plus compliqué, car il faut qu'elles soient à la fois attirantes, féminines, mais pas trop sexy pour renvoyer une image de sérieux et de compétence.
C'est ça.
Bon, on verra en 2017, effectivement, si la jeunesse l'emporte aux élections présidentielles en France. Vous allez vous habiller comment pour votre repas du Nouvel An, Salge ?
Bonne question. Moi, je m'habille toujours pareil.
Que ce soit au réveillon, en short et en débardeur,
voilà,
avec des sandales.
Voilà. Débardeur.
C'est génial, le débardeur. Voilà,
pour montrer mes gros muscles. Oui.
Jean-François Amadieu, vous êtes très classe aujourd'hui, faut le dire. Je ne sais pas si vous allez être dessiné par Salge, mais vous avez le costume cravate.
Je crains, pour reprendre le vocabulaire de Salge, que la cravate de fils de pute. ça n'est pas mon vocabulaire, c'est le vôtre. Je me ferai sûrement épingler. Mais non, j'étais avec des gens très sérieux, donc comme je dis que je fais le caméléon, évidemment, là, j'avais dû mettre ma cravate. Mais oui, non, pour les
pour voilà. Enchaîner, donc.
Oui, pour enchaîner, pour enchaîner, pas de cravate pour les repas de nouvelle année.
Bon, merci beaucoup, Jean-François Amadieu, d'avoir joué le jeu. Merci infiniment. La Société du paraître est un essai très sérieux paru aux éditions Odile Jacob. On y apprend beaucoup de choses. Merci Salch, votre recueil de dessins, lookbook, qui fait l'unanimité.
Oui, j'espère bien.
Pour public averti, donc. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est chez Fluide Glacial, ça décape. Merci Salch. Merci. On poursuit cette librairie francophone spéciale Nouvel An avec un florilège de moments forts qui ont marqué cette émission en 2016. Jean d'Ormesson, Catherine Mavrikakis, Abdal Malik, Jean Ziegler, Tahar Ben Jelloun, Lolita Séchant ou encore Majid Cherfi qui était venu parler de son roman Ma part de Gaulois et qui avait repris ici dans nos studios une chanson de Pierre Perret. C'est inédit à la radio, ou presque, en tout cas ça a été diffusé une fois. En voici une nouvelle diffusion. Écoutez.
L'histoire de Mimi, Mimi la douce pour les amis, Mimi cœur sec pour les blancs becs. Ses 20 berges, elle les faisait même pas, elle avait qu'à siffler comme ça, 20 types s'écroulaient dans ses bras. Moi, je lui brodais 3 fois par jour, de délirants billets d'amour, la même encre que ses yeux doux. Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa bouche était un bol de lait, que je lapais comme un matou. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanchais d'un costume de baiser. L'amour s'ébatte, me dit-elle un jour, mais on est fauché, mon amour, faudrait casser chez les Rupins. Je lui dis, t'oublies que je suis chanteur, un jour j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit, les poules auront des dents, soyons pas vaches en attendant, soulageant les riches malheureux. Moi, pour un seul de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air si elle m'avait dit, efface-le. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanchais d'un costume de baiser. On a d'abord fait les perceptions, les coffres des allocations, les bijouteries pleines de promesses. C'est pénible à dire et c'est honteux. Au moment d'estourbir les vieux, je mouillais ma chemise comme une gonzesse. Et je commençais à peine à me faire la main quand toute la maison poulardin nous a mis le grappin sur le dos. Maintenant je suis tondu comme un veau. Ils l'ont mise à la petite roquette et moi en centrale à Clairvaux. Je retrouverai ma violette, ses chouettes mirettes, son corps de fête, que j'endimancherai d'un costume de baiser.
Majid Cherfi qui reprend Mimi la douce, titre de Pierre Perret, interprété en acoustique pour la librairie francophone. Bonjour Majid Cherfi.
Bonjour.
Vous publiez votre 3e roman, Ma part de Gaulois, un roman très personnel, très incarné, aussi sélectionné aussi pour le prix Goncourt.
Oh, il a prononcé le mot. Waouh !
Excusez-moi, ça va. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Non, c'est... Dès qu'on prononce ce mot, je...
C'est la première liste
mais
en même temps.
Ça va mieux. Mmh. Oui, mais ça suffit.
Ça changera peut-être la semaine prochaine.
J'en demanderai plus.
Bon, on vous souhaite d'y rester le plus longtemps possible.
Ma foi.
On commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche pour une anecdote dont tout le monde va se souvenir, évidemment. Et je découvre en même temps que les auditeurs, que voulez-vous transmettre, Majid ?
À l'âge de 11 ou 12 ans, j'accompagnais tous les mercredis ma mère à la poste. Mmh. Et donc, on entre et elle s'adresse à la postière et lui fait « Tu me donnes l'argent !» Tu me donnes l'argent, tu es rempli la... Bon, et moi, je la tire par la jupe. Maman, on ne dit pas tu, on dit vous. Et je prends une claque. Tu me donnes l'argent, tu me remplis la... Maman, on ne dit pas tu, on dit vous. Bam, je prends une seconde beigne. Elle fait ses petits trucs, on sort. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, on ne dit pas tu, on dit vous. Mais pourquoi? Elles étaient combien?
C'est une histoire vraie, je suppose.
Une histoire vraie.
Quand on a lu votre livre, on ne peut que croire voilà, à cette
ça
histoire.
Ça aurait pu être dans le bouquin.
Oui, carrément.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Retour sur cette interview avec Majid Cherfi et les libraires à présent qui vous présentent leur coup de gueule ou leur coup de cœur autour des sorties 2016 en librairie. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année, Sophie Creuse, en Belgique?
Ah ben écoutez, mon coup de cœur 2016 va au livre Le Silence, paru chez Stock en janvier dernier. C'est le point d'orgue de l'œuvre de Jean-Claude Pirotte, disparu en 2014. Mm-hmm. Poète belge, ouais. Il a été couronné par le Goncourt et par le Grand Prix de l'Académie française, mais il était aussi romancier de lui-même. Et dans ce dernier texte, eh bien, il pédale à rebours vers ses 17 ans dans la Côte d'Or. Il y célèbre le vin, l'amitié, les poètes, et puis cette harmonie parfaite, fugace, vous savez, de l'adolescence. Mm. C'est une pure merveille, Emmanuel, qui se déguste à la petite cuillère.
Silence de Jean-Claude Pirotte, très grand poète belge, effectivement, aux éditions Stock. Merci Sophie. Laura Sanchez pour la Suisse. Coup de gueule ou coup de cœur?
Eh bien, un coup de gueule aujourd'hui, Emmanuel, au sujet de tous ces livres sonores qui sortent maintenant pour les tout-petits. Donc sur chaque page, il y a une puce sur laquelle l'enfant appuie et un son se fait entendre. Alors moi, j'y vois plusieurs problèmes. D'abord, l'enfant s'autonomise, alors qu'un livre mis entre les mains d'un enfant entre 1 et 3 ans sert à tisser un lien entre l'enfant et l'adulte et pas à le laisser seul face à un objet. Mmh. Ensuite, cela pourrait leur faire croire qu'un livre a besoin de ça pour être attrayant, ce qui est évidemment faux. Mmh. Et enfin, pour couronner le tout, lorsque le livre n'a plus de piles, eh bien, ça coûte plus cher d'acheter des piles pour les changer que de jeter le livre et d'en acheter un nouveau.
Ah oui,
voilà,
carrément.
Aberration.
Aberration des livres sonores pour les enfants. En plus, ça fait plein de bruit, c'est vrai que c'est agaçant. Merci ouais. beaucoup, Laura. Dernière partie de cette émission qui fait la transition entre 2016 et 2017. Retour sur certains moments forts que nous avons choisis pour vous, des moments inattendus ou des anecdotes. Voici dans l'ordre Lolita Séchant, puis le Suisse Jean Ziegler, très engagé dans la lutte contre les inégalités. Il était avec Tahar Benjelloun sur notre plateau à Radio France, Faites le Livre. C'était en public. Et puis, vous entendrez la Québécoise Catherine Mavrikakis au Salon du Livre de Montréal. Bonjour Lolita Séchant.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans cette émission. Votre livre est magnifique, sublime, passionnant. C'est un roman graphique ou une grosse BD, comme vous préférez. On part au Vietnam avec vous. Alors, vous apprenez plein de choses. Hein. Au Vietnam, par exemple, quand on vous aime bien, on vous tape dans le dos. Mmh. Ça, ah oui. Ça vous a surpris aussi?
Bah c'est des résistants, des increvables en fait, les Vietnamiens. Et ça, de génération en génération, ça se transmet. Il y a cette espèce de culture un peu brute où vraiment, quand on vous aime bien, hop, on vous donne une bonne tape. Et voilà, c'est pas...
Il y a des traditions aussi pour touristes qui vous plaisent, comme libérer un oiseau d'une cage et faire un vœu. Ça... Alors ça, c'est une grosse arnaque en fait.
Bah, moi, j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte, en fait. J'y croyais vraiment, vraiment. Oui. En fait, je suis pas du tout religieuse, mais je suis un peu mystique quand même, donc j'aime bien croire en plein de choses. Et là, j'avais cet oiseau, et j'étais sûre qu'il partait très loin, et que je libérais un petit moineau, avec mon vœu qui allait forcément se réaliser. Et bien sûr, je veux pas dire la fin du bouquin, mais quand même, 10 ans plus tard, j'ai appris qu'ils étaient dressés à revenir.
Donc... Oui, voilà, c'est pas la fin du bouquin, c'est une anecdote.
C'est une anecdote, mais bon, c'était vraiment à l'image du pays, en même temps.
C'est-à-dire que les oiseaux, on les libère, on donne un dollar, voire deux, voire trois, ça dépend voilà. Comment on se fait arnaquer. Oui. Et l'oiseau part, alors on a l'impression qu'on a libéré un oiseau. Sauf qu'il est dressé pour revenir. L'oiseau est complètement abruti, en fait. Hein,
parce que pour en fait, il paraît que c'est hyper facile.
Ouais. De quoi, de les dresser?
Oui.
Ah oui, bah écoutez. Ouais. Et puis, à un moment, vous arrivez à Sapa.
Are you back for me, Are you back for me?
Sur ces voix d'enfant à Sapa.
D'où ça vient, ça?
Ça vient, c'est nos archives, notre boîte à son. Ouais, c'est ce que vous avez connu.
Ah oui.
Et vous rencontrez une jeune fille là-bas.
Oui, une petite fille en fait,
qui a 12 ans.
Oui, oui.
Et il y a un lien très fort, et c'est là toute l'histoire de votre livre. Il y a des points communs avec elle dès le début, avec vos pères respectifs. Vous apprenez par exemple, avec beaucoup de troubles, que votre papa va avoir un deuxième enfant. Et vous décrivez de façon très pudique sa dépression aussi à un moment. Vous le dessinez de dos dans une clinique spécialisée. Et vous dites, on est comme E.T. et sa plante tous les deux. Quand l'un ne va pas, l'autre se fane.
Ça, c'est les références des enfants des années 80. Ouais. Hein, mais c'est vrai, non, mais j'ai toujours eu cette image en tête avant même de faire cet album. C'est peut-être le propre des familles fusionnelles, j'en sais rien. Il y a un cordon qui passe de membre en membre et de membre de la famille, je précise. Mmh. Et qui, voilà, on est connecté. Mmh. Donc il faut apprendre à peut-être couper le lien pour mieux le vivre.
Et on vous doit quand même, Lolita Séchant, l'une des plus belles chansons du répertoire de la chanson française.
C'est pas grâce à moi.
Morgane de toi.
C'est grâce à lui.
Vous l'aimez bien cette chanson ou elle a été envahissante pour vous?
Ah non, non, rien n'est envahissant.
Rien.
Vraiment. Non, pas du tout, parce que j'adore ce qu'il fait.
Vous l'avez bien vécu, même quand vous étiez enfant?
Bah oui, parce qu'enfant, c'était enfin comme, je sais pas, n'importe quel parent qui fabriquerait quelque chose pour son enfant. Donc, c'est aujourd'hui que j'en prends conscience. C'est il y a deux semaines au Zénith, tout d'un coup, j'ai des flashs et je me dis, mais c'est quand même très étrange d'avoir 6000 personnes qui crient « je t'aime » en fait.
Votre papa, c'est Renaud, hein, c'est le chanteur Renaud.
Exactement.
Voilà, on l'a pas dit.
La lutte de classe est une évidence absolue. 1% de la population du monde a autant de fortune aujourd'hui que 99% de la population du monde. La misère ravage cette planète, la guerre ravage cette planète. Une lutte de classe des riches contre les pauvres, d'en haut, est en cours et s'amplifie et s'aggrave tous les jours. Donc la résistance, l'insurrection des consciences, l'organisation populaire est plus nécessaire, plus urgente que jamais, avant que cette planète implose complètement.
Alors vous dites d'ailleurs qu'on pourrait mettre dans un bus tous les riches et que ce serait l'équivalent du PIB de dizaines, de centaines de pays. Juste dans un bus.
Si on prend les 85 personnes les plus riches de la Terre, on les met dans un bus, vous cumulez une fortune qui vaut celle de 3,5 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire incroyable. Exactement la moitié de l'humanité doit se contenter d'autant de biens qu'ont les 85 personnes les plus riches de la Terre. L'inégalité, la misère faite, l'exploitation, domination de l'homme sur l'homme est le scandale absolu de notre temps.
Est-ce que, Jean, tu peux me donner l'adresse et le numéro de matricule du bus où il y a 85 personnes
les plus immensément riches du monde.
Ah oui?
Ah bah oui.
Ils sont parfaits. Les truands qui dominent la planète.
Ah, ça, ils vous l'avez relancé.
Ah non. On va être amis avec
mais
eux.
Mais mon livre s'appelle Chemin d'espérance.
Chemin d'espérance aux éditions du Seuil. Vous pouvez applaudir Jean Ziegler. Et bonjour Catherine Mavrikakis.
Bonjour.
Vous êtes aussi invitée d'honneur du Salon du Livre de Montréal. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir pour une signature et qui vous a dit, si vous avez des problèmes, on va vous aider.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça dans la vie. Ils sont plus optimistes
bon,
que moi.
Bon, on va vous aider Catherine. On va écouter la BO du roman. Oui, vous connaissez cette séquence. On vous a demandé de nous mettre dans l'ambiance de votre livre. Donc la BO du roman, c'est un peu la bande originale, comme au cinéma. Mm-hmm. Et vous avez choisi Marilyn Manson. Ça continue. You're so vain, on écoute un extrait et vous nous expliquez. Catherine Mavrikakis, habillée de noir, avec des colliers, une chevelure blonde, très maquillée, comme Marilyn Manson.
N'exagérons rien.
Mais non, je décris simplement, Catherine. Pourquoi Marilyn Manson?
Pourquoi Marilyn Manson? Parce que, c'était You're So Vain que je voulais écouter, mais je voulais cette version-là parce que c'est une reprise d'une chanson. Marilyn Manson le reprend de façon violente et... Bon, très personnel, mais Marilyn Manson parce que c'est une vedette planétaire, comme mon personnage Oscar des Profondis, Et j'avais été très frappée parce que j'avais vu une entrevue qui avait eu lieu en France de Marilyn Manson, une entrevue en français, et où Marilyn Manson disait combien il avait été inspiré par la littérature française, ouais, ouais. par Antonin Artaud, par Baudelaire, ouais, par exact. Beckett.
Et c'est le cas de votre personnage.
Et
d'ailleurs.
C'est le cas de mon personnage. Ouais.
On termine cette rétrospective 2016. C'est notre cadeau de fin d'année. Si vous avez manqué le début de l'émission, n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission en ligne ou en podcast. Deux anecdotes pour conclure. Abdelmalik et Jean d'Ormesson.
Alors, c'est peut-être pas l'histoire la plus drôle, mais disons que tous les artistes, enfin ceux qui font de la musique, leur rêve, c'est de signer en maison de disques. Et voilà que j'ai quel âge j'ai 19, 20 ans, enfin, il y a quelques années, avec mon groupe de rap. Donc on signe en maison de disque et tout ça, c'est merveilleux. Et cette maison de disque, dont je tairai le nom, avait l'habitude d'accrocher en fait les photos de chacun. On rentre dans le bâtiment et il y a les photos des différents artistes.
Oui, oui, je vois très bien à quelle maison de disque c'est. Oui.
Bon. Donc on signe, il y a notre photo, c'est merveilleux et tout. Ouais. Et puis les choses se passent. Et les choses se passent, mais pas très bien en fait. Le disque ne se vend pas, c'est un peu difficile et tout ça. Et un matin, donc j'ai rendez-vous à la maison de disque. Donc je vais à la maison de disque, mais je vais un peu en avance. Disons qu'on a rendez-vous à 10h et je vais à 9h. Et j'arrive en fait, et arrivant à l'entrée, je vois les gens décrocher notre photo et la remplacer par une autre.
Oh là là. Et là, on va vous dire.
Et ensuite,
il y a plus de contrat.
Ensuite, je viens pour entrer, on me demande, vous désirez, on me demande si je suis un coursier ou si... Et en fait, c'est bizarre parce que c'était la même personne qu'habituellement je voyais.
Ouais.
Et cette fois-là, en fait, elle voulait pas me laisser, elle était pas sûre, en fait. Et on décrochait notre... Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment bouleversé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Voilà. Mais en même temps, ça m'a rendu plus fort, c'est-à-dire les choses, voilà, les choses évoluent.
Alors vous évoquez rapidement ce passage d'ailleurs dans le livre, ouais. Et vous dites que vous prenez l'attitude de Camus avec sa dignité.
Exactement.
Voilà, la
Exactement.
Dignité d'abord.
Exactement.
Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accueillir la librairie francophone chez vous, dans votre maison, à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris, pas très loin de l'Arc de Triomphe d'ailleurs, pour nos amis qui nous écoutent à travers le monde. Je découvre l'histoire en même temps que tout le monde. Que voulez-vous transmettre ?
Eh bien, l'autre jour, j'étais en voiture et j'ai été bloqué, comme souvent, par la benne qui ramasse les ordures. Et stupidement, je donne un tout petit coup de klaxon. Et un des hommes vient vers moi et me dit, vous savez, nous travaillons. Et je lui dis, mais je m'excuse, j'ai été stupide d'avoir klaxonné comme ça. Et nous nous mettons à parler 5 minutes, peut-être 10 minutes. Je vous assure que derrière, les gens
s'impatientaient.
Eh bien, en 10 minutes, ce monsieur, qui était noir, qui ramasse les ordures à Paris, était un type extraordinaire. J'étais enchanté de parler avec lui. C'est devenu un ami. C'est devenu un ami. Et une fois de plus, je me suis dit que vraiment, le monde est injuste et que je suis sûr qu'il y a partout des Mozart ignorés, des professeurs au Collège de France qui n'ont pas pu faire carrière. Et une fois de plus, moi qui suis un partisan de l'émulation à l'école et même de la sélection, je ne veux pas que la sélection soit une sélection sociale. Je veux bien que ce soit une sélection de talents. Eh bien, il faut tâcher de donner à tous les chances de réussir.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, on termine avec un son du monde, interprété pour nous par le chanteur sénégalais Baaba Mal. Voici un extrait de Kala Adjo.
Wi tanela ñol gol na duono manda nya jam Futa na rewema futa sabu yana nande ma kalaju Ah tanela ñol gol na duono manda nya jam Futa na tejima futa sabu yana ya kore ma kalaju wi tande la ñol gol na do na manda ñajam futa na sabema futa sabu yana ya kore ma kalaju aha a tande la ñol gol na do na manda ñajam kalaju aha kalaju aha kalaju ablai ablai abla ayeli man abla ayeli man aha 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 kalaju aha kalaju ablai ablai
Bah bah mal, que vous pouvez retrouver en intégralité dans la librairie francophone diffusée mi-novembre, à écouter sur notre site internet. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation Céline Hila avec Henri Bérec, à la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chua en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, il sera question des 150 ans du Canada. Nous serons à Montréal pour vous raconter des moments de l'histoire canadienne avec des auteurs. Et puis nous recevrons aussi Grégoire Delacour, le premier événement de cette rentrée littéraire de janvier. Soyez raisonnables, mais pas trop. Je vous souhaite la meilleure transition possible entre 2016 et 2017. À bientôt. Salut.